vaut Tarn que jamais.
Mieux vaut Tarn que jamais. Mieux vaut Tarn que jamais.
Mieux vaut Tarn que jamais.
Salut, je m'appelle Florian. Je suis actuellement en stage à CFM et je vous propose de vous parler des sons et des paysages sonores qui nous entourent au quotidien. Mais qu'est-ce que le son ? La définition la plus simple qu'on puisse lui donner est qu'il est une vibration qui se déplace sous forme d'ondes à travers la matière telle que l'air, l'eau ou bien un solide. Il provient de trois principales sources : la biophonie, la géophonie et l'anthropophonie. Ces trois sources sonores forment ensemble ce qu'on appelle un paysage acoustique ou paysage sonore. Le paysage sonore se définit alors comme étant toutes les ondes que le mécanisme de l'oreille transmet à notre cortex auditif. La première source sonore dont nous allons parler est la géophonie. Elle est formée par tous les sons naturels non biologiques, comme par exemple le vent, la pluie, le bruit du tonnerre ou bien le bruit des vagues. Les sons géophoniques sont qualifiés comme étant des sonorités maîtresses ou toniques, ou plus simplement des bruits blancs, c'est-à-dire les sons sur lesquels les autres sons vont se baser. Comme le bruit de la mer ou du vent, ils ne sont pas toujours conscientisés. L'environnement dans lequel le son se propage joue un rôle important sur son déplacement dans l'espace. Ainsi, le son rebondit sur les surfaces lisses, s'amplifie, s'étouffe ou bien résonne. C'est ce que l'on appelle l'acoustique. À Corte-sur-Ciel, différents lieux du village et de ses alentours présentent une acoustique marquée. Allons nous promener par exemple dans la capelette Saint-Jacques de la Grande Rue de l'Horloge. Ici, le son rebondit sur les parois du bâtiment jusqu'à revenir à nos oreilles. C'est le phénomène de réverbération. Les églises et les cathédrales ont été conçues spécialement pour accueillir le son et l'amplifier naturellement en utilisant ce même principe. Un peu plus haut dans la même rue, on peut entendre la cloche sonner à toute heure et demi-heure. Et si l'on prête bien l'oreille, on peut entendre distinctement sa résonance. À Corte-sur-Ciel, j'ai rencontré Jean-Jacques Angealbert, que je vais vous présenter comme sculpteur spirituel, et qui a bâti à différents endroits du village des lieux de méditation, de recueillement et d'expérimentation. Ses derniers projets portent sur la construction de sphères creuses, notamment une de 6 mètres de haut dans le quartier du Bouissette. Et Jean-Jacques commence par nous expliquer comment ont été construites ces sphères.
Au tout début, il y a une maison qui m'est tombée dans les mains, place de la Halle, et grâce, je peux dire, à une grande sage de l'Inde qui s'appelle Mananda Moyi. Et la première fois que j'ai découvert quelques phrases d'elle, ça répondait à tous mes questionnements, toutes mes interrogations. Ça y est, ça remettait de l'ordre à moi-même. Alors cette sage, elle signait en faisant un point. Parce qu'elle disait, on est tous une unité. Mais on croit être très différents les uns des autres. Alors que si on réfléchit un tout petit peu, on respire le même air, on entend les mêmes sons, en parlant de sons, tout nous traverse, on est tous en interaction. Les oiseaux chantent, on les entend, Moi, je les entends, toi, tu les entends. À partir de ce point, moi, j'ai commencé à faire, au deuxième étage, là-haut de la maison, une boule. Une sphère de 2 mètres de diamètre, à peu près. Et là, j'avais envie de faire un point. Donc, j'ai fait un point dans lequel les gens puissent rentrer, en plus. Et quand je la faisais, que je faisais le plafond tout blanc, là, ça m'a fait un effet sur moi d'expansion de conscience. Voilà le départ donc de ces constructions étranges. Après, j'ai voulu en faire une énorme. Et alors là, super, là ça a été un cadeau. Elle s'est mise à chanter, c'est-à-dire à faire écho à la voix. C'est-à-dire que même à 1 mètre à l'extérieur, si on parle, le son rentre à l'intérieur et amplifié. Alors là, ça y est, ça a été la découverte donc des sons engendrés par les sphères. Après, j'en ai fait une là, au milieu des arbres. Mais déjà, elle fait 6 mètres de diamètre. Et à mesure que je la finissais, ça y est, elle avait encore un écho dingue, incroyable. À 3 mètres à l'extérieur, ça prend le son. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent pour chanter, pour méditer. Comment ces sphères ont été construites? En extérieur, je fais avec du fer à béton, lié d'une manière très souple, de manière à ce que, quand la voix était, quand un son était mis à l'intérieur, ça fait comme une corde d'instrument, et ça vibre, et ça se multiplie. Voilà. Donc c'est du fer à béton. Après, il me faut l'habiller avec en intérieur avec des draps en lin de grand-mère d'autrefois, et du plâtre, et en extérieur, non, avec du ciment et de la toile de verre. Donc, est-ce que cet aspect sonore a une importance particulière pour nous? Ben oui, parce que ça, tous les musiciens qui passent là, ils veulent revenir, et ils reviennent. Comment le public interagit-il avec vos constructions? Eh bien, à la maison de là-haut, puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent, il y en a beaucoup qui reviennent aussi pour chanter en groupe. C'est marrant, ça marche, tout seul, j'ai pas de publicité à faire, ça se dit du bouche à oreille, et chacun chante à sa manière, puisque pour moi c'est pas qu'on chante du grégorien ou Om Namah Shiva ou tout ce que, le son il se répercute pareil quoi, donc c'est la liberté entière, les gamins ils adorent aussi, ils adorent crier, voilà.
La deuxième source sonore dont nous allons parler est la biophonie. C'est le monde sonore de tous les organismes générant du son, comme les insectes, les oiseaux, les grenouilles ou même encore les chiens et les chats. Il suffit de s'écarter un tant soit peu des paysages sonores trop urbains pour vite se retrouver en immersion dans des biophonies plus vastes et riches. Nombreux oiseaux et insectes peuvent s'y faire entendre. Partout dans le monde, les biophonies changent selon la saison, l'environnement et différents autres facteurs écologiques. Aux alentours de Cordes dans le Tarn, on peut entendre différentes espèces d'oiseaux. Et pour vous en parler, j'ai rencontré Cédric Moresco, qui est ornithologue de profession et par passion, et qui observe les oiseaux avec ses yeux et ses oreilles.
Alors les oiseaux qu'on entend autour de Cordes, c'est un peu les mêmes oiseaux qu'on va entendre un peu partout en France. Parce que donc les oiseaux qu'on rencontre vont dépendre des milieux qu'on va avoir autour de nous. Si on est en montagne, on n'aura pas tout à fait les mêmes oiseaux que si on est en plaine. Si on est au bord de la mer, on n'aura pas tout à fait les mêmes oiseaux qu'à l'intérieur des terres. Il y a un autre paramètre important, c'est la saison. Vous le savez, de toute façon, là, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. Déjà, il y a une grosse partie des oiseaux qui n'est pas là une partie de l'année. Et en plus de ça, les oiseaux ont leur saison. Ils ont leur saison de reproduction, c'est là qu'ils chantent le plus. En dehors de la saison de reproduction, ils se calment beaucoup. On les entend chanter beaucoup moins. Ils sont pas tout à fait silencieux, mais c'est le concert global est quand même beaucoup plus calme. Hier matin, j'ai entendu mon premier coucou. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en retard cette année parce que le printemps, là, il est un peu timide. Ils ont été bloqués par des mauvaises conditions météo dans le sud de l'Espagne et le nord de l'Afrique, qui fait que pour l'instant, la plupart des oiseaux migrateurs transsahariens ne sont pas arrivés chez nous. Par exemple, là, dans la rue, tout à l'heure en arrivant, j'aurais pu voir des hirondelles, mais elles sont pas encore arrivées. Et donc voilà, mon premier coucou hier. Sinon, je peux vous dire, juste en descendant de chez moi depuis les Hauts-de-Cordes, j'ai vu des maisons charbonnières qui chantaient. Donc ça, c'est un des oiseaux les plus typiques qui est vraiment dans une très grande gamme de milieux qu'on trouve autant en plaine qu'en montagne et qui est très fréquent dans nos jardins. Les gens qui nourrissent les oiseaux dans leur jardin, par exemple, ont très certainement des maisons charbonnières qui viennent chercher des graines de tournesol ou autres friandises qu'on met à leur disposition. On est dans une ambiance de début de printemps. C'est-à-dire qu'en fait, les oiseaux migrateurs ne sont pas encore franchement arrivés. Donc du coup, les oiseaux qu'on entend chanter, c'est surtout des oiseaux sédentaires. Donc il y a les mésanges, la mésange charbonnière, la mésange bleue. On a le merle qui chante beaucoup dans les jardins. On a la grive musicienne qui chante également. On peut entendre également le troglodyte, le rouge-gorge, le verdier, le pinson. Voilà, tout ça, c'est des oiseaux qui restent chez nous l'hiver. Donc forcément, au tout début du printemps, c'est aussi les premiers à chanter, avant qu'ils soient complétés, par d'autres espèces qui vont arriver d'Afrique. Ah bah là, j'attends avec impatience le rossignol, la fauvette grisette, le rouge-queue à front blanc, les hirondelles, l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre. Pour l'instant, ceux-là n'ont pas encore montré le bout de leur bec. Et il y a le loriot également, qui est un chant très sympa et qui arrive lui, généralement dans la première semaine ou deuxième semaine d'avril. J'espère qu'il ne sera pas en retard cette année. Ça m'arrive assez souvent de jouer, de titiller, de jouer, on va dire, avec les oiseaux, soit en imitant plus ou moins leur chant, soit en faisant juste des bruits, des sifflements, des chuintements, des choses comme ça. Des fois, c'est juste pour pouvoir les prendre en photo. Des fois, c'est juste pour mieux les voir. Il y a certaines espèces qui sont très discrètes, qui restent cachées dans les buissons. Par exemple, je suis arrivé un peu vite, l'oiseau m'a vu, il s'est précipité dans un buisson. Et bon, pour le faire ressortir, je vais essayer de faire des bruits pour l'intriguer, en fait. Pour l'agacer un petit peu. C'est une technique. Il y a deux techniques. Il y a la technique qu'on appelle la repasse, donc qu'on peut faire en sifflotant, mais la plupart du temps, il faut avouer que maintenant, on fait ça avec nos téléphones portables. On a les chants, les cris d'oiseaux dans notre téléphone portable. Donc, quand on veut faire réagir un oiseau, le chant, on évite parce que ça les stresse un petit peu, surtout en période de reproduction. Bon, au moins, on va passer son cri. Comme ça, lui, pensant qu'il y a un autre individu de son espèce dans le voisinage sur son territoire, il va venir voir ce qui se passe, éventuellement de façon un petit peu agressive. Et donc ça, c'est la repasse, qu'on appelle ça en français. L'autre technique, je connais pas le nom français, je connais que le nom anglais, ça s'appelle le pishing. Et donc, le pishing, c'est juste faire des bruits avec sa bouche, du style pss, 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 pss. C'est ça qu'on appelle ça le pishing, pour attirer les oiseaux. Mais des expressions pour imiter, enfin comment dire, retranscrire le chant de l'oiseau, j'en connais. Par exemple, un que j'ai utilisé très récemment avec un jeune ornithologue là, que je formais, c'était le chant de la bouscarle de Séti. C'est pas un oiseau qu'on trouve à Cordes-sur-Ciel, mais qui devient assez fréquent quand on descend vers le sud, qu'on trouve en général le long des rivières. Donc la bouscarle de Séti, son chant, c'est tout simplement « je suis la bouscarle de Séti ». C'est un bon moyen mnémotechnique. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont menacées. Je pense que le plus gros des espèces menacées actuellement, c'est les oiseaux qui sont très liés au milieu agricole. À cause de l'intensification des pratiques agricoles, des champs qui sont de plus en plus grands, des tracteurs qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus puissants, et l'épandage ça dépend des coins, mais bon, quand même assez intense souvent de pesticides, d'herbicides et de pesticides, ça fait qu'en fait nos paysages agricoles deviennent de plus en plus hostiles aux oiseaux qui normalement nichent dans ces paysages. Un oiseau typiquement qui se porte vraiment pas bien, c'est l'alouette des champs. L'alouette des champs, il y a encore 20 ans, c'était un oiseau, on pouvait pas sortir dehors sans entendre une alouette des champs. Dès qu'il y avait un champ, il y avait une alouette des champs. Et dans le champ d'à côté, il y avait une autre alouette des champs. Donc on les entendait chanter partout. En plus, c'est un oiseau qui monte très haut dans le ciel pour chanter. Donc du coup, vraiment, il remplissait le paysage sonore. Alors que maintenant, en se promenant dans la campagne, même autour de Cordes, des alouettes des champs, ils vont en chanter une tous les kilomètres, par exemple.
Malheureusement, de nombreuses buffonies sont aujourd'hui en péril du fait des activités humaines sur l'environnement et beaucoup d'entre elles ne sont plus audibles à cause des forts bruits que l'humain produit au quotidien. De plus, la pollution contribue à faire disparaître de nombreuses espèces animales, notamment des oiseaux, qui sont de moins en moins nombreux autour de nous. Cette dernière réflexion nous amène à notre troisième source sonore, l'anthropophonie, qui se traduit par tous les sons produits par l'être humain, comme la voix, la musique, tout comme nombreux sons tels que ceux des voitures, des machines, mais aussi d'un grand nombre d'appareils électroniques qui nous accompagnent au quotidien. Ici à Cordes, on peut par exemple retrouver ces sons à la place de la bouteillerie, là où le trafic routier est plus dense. Ces sources sonores humaines prennent plus ou moins de place dans nos vies selon l'endroit où l'on habite. De ce fait, quelqu'un habitant à la campagne sera moins exposé au bruit que quelqu'un vivant en ville. J'ai demandé à différents passants dans les rues de Cordes comment ils perçoivent ces sons au quotidien.
Est-ce que vous avez tendance à faire attention au bruit et aux sons qui vous entourent au quotidien ou vous y faites pas vraiment gaffe?
Ça dépend. Des moments je fais pas gaffe du tout et à des moments je vais vachement penser à ça.
Ouais, j'y fais vachement gaffe, surtout quand je suis dans la nature, du coup, avec les bruits de la forêt, des oiseaux, de la rivière. Voilà, du coup, ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai toujours les oreilles ouvertes, quoi.
Disons que j'y fais attention à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire, tant que ça ne me gêne pas, je ne fais pas attention. Mais à partir du moment où il y a quelque chose de strident ou quelque chose qui veut beaucoup de circulation, beaucoup de voitures, voilà, j'y fais attention et quand je peux éviter, j'évite.
Oui, j'entends le son. Et quand je suis dehors, je suis attentif, mais je ne fais pas beaucoup d'attention parce que ça me fait comme le truc normal du quotidien. Donc s'il y a le son la nuit, ça me dérange, mais le jour, non.
Je crois que ça dépend. J'ai envie de dire que j'y fais pas trop attention, mais il y a peut-être des moments où on fait quand même plus attention, mais j'ai pas trop d'exemples en tête.
Je pense que j'y fais pas trop gaffe. Même par exemple, à côté de chez moi, il y a un train qui passe et je l'entends rarement. C'est comme si j'étais un peu chez moi dans ma bulle. Après, quand je suis à l'extérieur, peut-être, oui, là, je fais plus attention. Mais ça me demande de faire un effort de concentration quand même.
Plus on vieillit, plus on fait attention au son. Ouais. On s'aperçoit que plus on vieillit, plus on est sensible aux agressions extérieures. Effectivement, les sons, qu'ils soient bons ou mauvais, prennent plus de place.
Y a-t-il un son que vous trouvez particulièrement dérangeant à entendre?
Alors les bruits métalliques, le métal qui s'entrechoque et les bruits des camions aussi qui roulent vite sur l'autoroute. Ça m'est arrivé une fois de dormir comme ça dans une tente à côté d'une autoroute et ça faisait peur, quoi, les bruits des camions.
Les motos, je trouve ça un peu agressif. Mais bon, j'ai rien contre les motards, mais c'est vrai qu'une moto tout seul qui fait un gros bruit, je trouve ça un petit peu agressif. Ouais.
Le klaxon de voiture, peut-être. Ouais, ça.
Mais tout ce qui est strident qui fait mal aux oreilles, quoi. Arrivé ouais. À un certain âge, en plus, on a les oreilles, il faut faire attention. Donc, moi, j'écoute plus de musique dans les oreilles, comme par exemple, comme les jeunes d'aujourd'hui.
Ben c'est toutes les basses de ces musiques modernes où on n'entend que les basses qui sont trop prégnantes. Et donc, oui, ça me semble insupportable, personnellement. Mais chacun fait bien ce qu'il veut.
Alors il y a un son qui est dérangeant, c'est quand il y a une télé allumée, mais que personne ne la regarde. Mmh. Que tu es censé faire autre chose, et il y a quand même une télé en fond, ça c'est dérangeant.
C'est pas dehors, mais le bruit de la craie, comme beaucoup de gens je pense, sur le tableau.
Ah, si j'ai un exemple. quand ma mère se cure les dents, elle fait un bruit type ça, je supporte pas. Voilà, ça, je trouve pas ça tag l'amour du tout.
Et à l'inverse, y a-t-il un son que vous appréciez entendre ?
Non, enfin, que j'aime spécialement, à part la musique, disons, jouée par des instruments de musique, la guitare, j'aime, oui, par exemple, des comme ça, mais jusqu'à un certain volume, il faut que ça reste doux.
Oui, vous savez, quand il y a des trucs un peu comme les cloches, les petites cloches, des fois les gens ils mettent dans les jardins, donc ça, ça vient avec le vent, le son.
Je sais pas, peut-être les voix de certaines personnes, dans certains. Mais je sais pas, ouais. Des fois, quand dans un transport en commun ou quoi, tu entends quelqu'un parler et il a une jolie voix ou un truc comme ça, ça peut être bien, mais je sais pas trop plus que ça.
Oui, les chants des oiseaux.
Eh bien, le bruit d'une cascade qui coule, je trouve ça super apaisant, quoi.
Ah, ben le bruit des oiseaux. Ouais, ça c'est agréable. Ah, des bruits du quotidien après, je sais pas, la cafetière qui coule. Bon, là aussi, c'est associé à l'odeur. C'est vrai que des fois, le son et l'odeur vont ensemble.
Ouais, les rires. Quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui. Une voix douce, il y a des gens qui ont des voix très agréables. Ça, je trouve ça assez sympa. Quelqu'un qui a une bonne voix. Ou des rires, ouais. C'est des sons assez plaisants.
Les voitures, les avions. Ou bien les machines modernes nous sont certainement bien pratiques au quotidien. Mais en contrepartie, elles nous plongent en permanence dans la grande cacophonie humaine que l'on appelle pollution sonore. Avec le temps, selon comment nous y sommes exposés, ces sources sonores peuvent s'avérer dangereuses, nous apportant de grandes doses de stress. Et pour échapper à ce mauvais orchestre, certains tentent de s'isoler dans la musique avec des casques, ce qui ne fait souvent qu'aggraver le problème. Mais l'être humain ne produit pas seulement de mauvais sons. À l'origine, la musique fut créée pour imiter le monde sonore de la nature. Les humains commencèrent à taper sur des bouts de bois. Ils fabriquèrent toutes sortes de flûtes pour imiter le chant des oiseaux et des instruments à cordes pour imiter la voix. L'idée a toujours été de se mettre d'une certaine façon au diapason de la nature. Et, petit à petit, la musique a acquis de nouvelles fonctions en accompagnant la vie des hommes, du berceau jusqu'à la tombe. Aujourd'hui, une des branches de la musique moderne qu'on appelle l'électroacoustique utilise à la fois l'environnement sonore, des instruments de musique et différentes machines ou ordinateurs pour créer des pièces sonores innovantes. Didier Achour est le directeur du GMEA, groupe de musique d'électroacoustique, l'un des centres nationaux de création musicale situé à Albi.
C'est une musique qui est née de deux courants, la musique concrète et la musique électronique, on va dire, qui sont des musiques qui ont été faites non pas avec des instruments de musique, mais avec des micros et des magnétophones pour la musique concrète, et puis des oscillateurs et des synthétiseurs pour la musique électronique. Donc si on veut décrire en termes d'outils, on peut dire que c'est une musique non instrumentale. Ou disons que c'est fait avec des instruments comme le micro, le magnétophone et les générateurs de fréquences. Du fait qu'on se sert du microphone et du magnétophone à l'origine pour enregistrer des sons à partir desquels on fait de la musique électroacoustique. Forcément, on intègre dans les sons qu'on capte, les sons de l'environnement. Et c'est comme ça que sont nées les musiques qui ont été composées uniquement à partir de sons du dehors, sons du réel. Donc c'est presque la matière première de ces musiques-là.
Conclusion. Que l'on s'en rende compte ou non, nous baignons en permanence dans un univers sonore riche et varié, passant de tumulte au silence, et malgré son invisibilité, le son est toujours présent autour de nous. Il est, pour tout être humain doté d'audition, une connexion forte avec le présent. Mais le son est aussi témoin de l'évolution de la société et peut-être même de son devenir. Les paysages sonores du monde n'ont jamais cessé de changer avec le temps. Des sons ont aujourd'hui disparu, d'autres sont apparus et ont proliféré. Et l'avenir sonore sera certainement encore très différent. Les enregistrements qui ont commencé à apparaître à la fin du 19e siècle et qui sont conservés dans des phonothèques constituent un véritable trésor pour l'humanité. S'ouvrir au monde des sons, c'est se donner l'opportunité de ne plus seulement entendre le monde, mais de l'écouter. Alors, permettez-moi maintenant de faire silence pour vous permettre d'écouter le monde sonore qui vous entoure.